Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Mali, 4 casques bleus ont été tués, 4 grièvement blessés après une attaque dans le centre du pays. En Guinée, la grève des enseignants se poursuit malgré la rencontre entre le président Alpha Condé et les syndicats à Conakry. Au Burkina Faso, ouverture du dialogue du gouvernement pour baisser la masse salariale dans la fonction publique.
Si le gouvernement en vient à cet exercice, c'est parce que depuis 2 ans, il n'a pas réussi à provoquer la rupture de ce que nous avons vécu pendant 28 ans.
En Afghanistan, le président Ghani propose un cessez-le-feu sous condition aux talibans. Dans la Minute Éco, on passera par la République démocratique du Congo, où un de ses gisements hébergerait beaucoup plus de ressources minérales. Et un PSG Real Madrid sans Neymar, ainsi que les derniers résultats de la NBA dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Mali, 4 casques bleus ont été tués et 4 grièvement blessés dans le centre du pays dans une attaque à l'engin explosif artisanal sur l'axe Boni-Douenza dans la région de Mopti, selon la MINUSMA. La MINUSMA renforce actuellement son dispositif sécuritaire dans le centre du pays aux côtés de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Acculés, les terroristes multiplient leurs attaques d'une bassesse innommable. Ce sont les déclarations du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSMA. Par ailleurs, la nuit dernière, 7 militaires maliens sont morts dans 2 attaques. 6 ont été tués dans une explosion de mine alors que le garde forestier a été abattu à coups de machette par un individu non identifié. Kassim Traoré.
C'est après une journée de patrouille entre l'interfleuve de Massina que les soldats maliens ont mis le cap sur la zone de Niono, plus précisément Djabali. Sur cet axe, le véhicule des militaires maliens a sauté sur une mine. Bilan 6 morts, plusieurs blessés, le véhicule totalement détruit. L'engin explosif improvisé a fait une déflagration d'une forte intensité qui a été sentie par les habitants de Djoura. Heureusement, aucun dégât n'a été causé aux populations civiles. Dans la ville carrefour de Douanza, c'est en face d'un garage non loin du bureau du préfet, au niveau d'une place que la population de Douanza appelle Lougué, que vers 18h, un sergent des eaux aux forêts a été tué à coups de machette par un homme armé non identifié. L'assaillant a donné 3 coups de machette aux soldats avant de prendre l'arme de ces derniers et disparaître dans la nature sans être inquiété. Les militaires, après ce forfait, ont organisé un ratissage tout au long de la ville de Douanza. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, la grève dans le secteur éducatif se poursuit malgré l'implication du président guinéen. Alpha Condé a reçu mardi à Conakry les syndicalistes grévistes sans réussir à faire suspendre le mouvement. Les discussions se poursuivent pour sortir de crise, pour une sortie de crise qui dure depuis plus de 2 semaines. Zakaria Camara.
Plusieurs voix s'étaient fait entendre pour demander cette rencontre. Mardi soir, le président Alpha Condé salue ses invités au palais Serouturea. Ensuite, écoute les syndicalistes qui ont lancé une grève illimitée dans l'enseignement préuniversitaire. Les deux parties s'écoutent, mais ne parviennent pas à obtenir la suspension de la grève. Les négociations se sont poursuivies mercredi à la demande du président guinéen qui a désigné quelques ministres et son conseiller personnel Thibou Camara. Il y a des difficultés financières et d'autres contraintes liées aux engagements avec les partenaires au développement, une situation peu favorable à la satisfaction du point lié aux 40% d'augmentation de salaire, explique le conseiller du président. Un point a été évacué ce mercredi. Il s'agit du paiement de la totalité des salaires du meneur du mouvement de grève, Aboubakar Souma, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, a annoncé à son tour le ministre guinéen de l'énergie, membre de la commission de négociation désignée par le président Condé. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée demande à terme 8 millions de francs guinéens, soit 900 $ comme salaire mensuel. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Au Niger, la Cour de cassation a repoussé au 11 avril son délibéré qui était prévu aujourd'hui sur le pourvoi de l'opposant Ama Amadou, condamné à un an de prison pour un trafic de bébés. Ama Amadou, ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, avait été condamné par coutumasse en mars 2017 pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. Il avait nié les faits et parlé de procès politique. Au Nigeria, au moins 13 personnes ont été tuées au cours d'affrontements entre jeunes musulmans et chrétiens dans l'état de Kaduna, dans le centre du pays. Des violences ont éclaté lundi à environ 45 kilomètres de la capitale de l'état Kaduna. Les médias locaux ont fait état de bilans beaucoup plus lourds. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies a déclaré rechercher un casque bleu tanzanien disparu depuis plus de 2 mois après l'attaque meurtrière de sa base de Semuliki. Pour rappel, le 7 décembre, une attaque contre la base de l'ONU à Semuliki dans la province du Nord Kivu a fait 15 morts, une quarantaine de blessés. Il s'agit de la pire attaque contre des casques bleus en 24 ans. Et toujours en République démocratique du Congo, 23 personnes ont été tuées en 3 jours d'affrontements entre communautés d'une région de l'Est située dans la province du Nord Kivu. Les localités de Bualanda, Mutanda et Kikuku sont habitées par des communautés Hutu, Nandé et Hunde. Ces 3 communautés s'affrontent régulièrement pour le contrôle de terres. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Nouakchott pour une visite de quelques heures, la première d'un chef d'État turc en Mauritanie. En provenance d'Algérie et accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, le président turc devrait s'entretenir avec le chef de l'État mauritanien avant de signer plusieurs accords de coopération selon le programme officiel. Et en Égypte, au moins 10 personnes ont été tuées, 15 autres blessées dans une collision entre 2 trains dans le nord du pays. 30 ambulances ont immédiatement été dépêchées sur les lieux, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé. Cet accident intervient quelques mois après qu'une collision entre 2 trains près d'Alexandrie a fait 41 morts en août 2017.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et toujours pas d'accord sur le Brexit entre Londres et Bruxelles. Ils ont affiché mercredi des divergences profondes menaçant d'ébranler l'accord de paix de Belfast. Le Royaume-Uni comme l'Union européenne affirment vouloir éviter le rétablissement d'une frontière dure entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande voisine après la sortie britannique de l'Europe fin mars 2019. L'Union européenne demande à la Russie, la Turquie et l'Iran d'intervenir auprès du régime syrien pour faire cesser les combats dans la Ghouta orientale pour permettre l'acheminement de l'aide et l'évacuation des blessés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La population civile en Syrie et en particulier dans la Ghouta orientale a déjà beaucoup souffert. Elle a besoin d'un arrêt des combats, a déclaré Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Elle a appelé au respect de l'accord d'Astana signé le 4 mai 2017 par ces 3 pays et qui prévoit la création de 4 zones de non-agression, dont la Ghouta orientale. Madame Mogherini a ajouté que l'Union européenne s'engage à faire en sorte que la 2e conférence de Bruxelles sur la Syrie, prévue les 24 et 25 avril prochains, permette d'atteindre cet objectif. Les combats se poursuivent malgré la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu d'un mois et la trêve quotidienne de 5 heures décrétée par la Russie pour permettre l'acheminement de l'aide et l'évacuation des blessés. Les protagonistes s'accusent mutuellement de violer cette trêve. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a demandé aux rebelles et à leur soutien d'agir pour que cette trêve fonctionne.
Le président afghan, Ashraf Ghani, a proposé un cessez-le-feu préalable à des pourparlers de paix sous condition avec les talibans. Nathalie Barge.
Cette proposition intervient au lendemain d'un appel des talibans aux États-Unis pour qu'ils discutent avec leurs représentants au Qatar. En préalable au pourparlers, le président afghan exige des talibans qu'ils reconnaissent la constitution, respectent les forces de sécurité et les droits des citoyens, en particulier des femmes. Les autorités s'engagent à assurer la sécurité des talibans qui accepteraient leur offre, à considérer leurs propositions et à lever les interdictions de voyager. Les talibans ont toujours refusé de reconnaître la constitution afghane de 2004. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'en avaient aucune et avaient supprimé les droits pour les femmes. Toutefois, leur déclaration à l'intention des États-Unis mardi montre leur disposition à discuter après une série d'attentats meurtriers à Kaboul fin janvier.
Et ici aux États-Unis, l'une des plus grandes chaînes de magasins d'articles de sport, Dick's Sporting Goods, a annoncé qu'il cessait immédiatement de vendre des fusils d'assaut semi-automatiques 2 semaines après la tuerie dans un lycée de Floride qui a fait 17 morts. En outre, le distributeur ne vendra plus de chargeurs de grande capacité ni d'armes aux moins de 21 ans, bien que certaines législations locales l'autorisent. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, qu'on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
En République démocratique du Congo, le gisement Kakula du projet Kamoa Kakula contient beaucoup plus de cuivre que précédemment estimé. La compagnie Ivano et Mines a annoncé lundi une hausse de 50% des ressources à une teneur de coupure de 3%. Suite à une nouvelle estimation, la mine Kakula hébergerait donc 174 millions de ressources minérales. En Côte d'Ivoire depuis mardi, le Conseil du coton et de l'anacarde a interdit la remontée vers les zones frontalières de tout véhicule ou engin transportant des noix de cajou, ainsi que des cargaisons refoulées à l'entrée des magasins portuaires et la fermeture systématique et immédiate jusqu'à nouvel ordre de tout magasin et centre de collecte situé dans les zones frontalières. L'an dernier, 390 000 tonnes de noix de cajou vendues à 98% vers l'Inde ont rapporté plus de 225 millions d'euros à la Côte d'Ivoire. Au Mali, le ministre du Développement industriel a posé mardi la première pierre d'une usine de production entièrement dédiée à la fabrication de Denil International en vue de la distribution de la marque de cigarettes au Mali. L'usine sera dans l'enceinte de la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, la Sonotam. Le coût de la réalisation s'élève à 10 milliards de francs CFA. Cette construction fait suite à un accord entre la Sonotam et British American Tobacco, conclu le 7 décembre dernier à Paris.
C'était bien sûr Ekiabadou. Et la musique d'ambiance qui indique la page sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, Neymar sera absent des terrains 6 à 8 semaines.
Et oui, les déclarations de son père, la visite à son chevet du médecin de la Seleção en attestent. Neymar, indisponible 6 à 8 semaines selon son clan, ne doit pas prendre de risque avec le Paris Saint-Germain afin de briller à la Coupe du Monde en Russie. La nation riverde ne veut pas revivre le drame de 2014 lorsqu'il s'était blessé. Le PSG, qui a dépensé un record de 222 millions d'euros pour l'attirer cet été, en est donc quitte à écouter son père et à jouer sans sa mégastar lors du 8e de finale retour tant attendu mardi prochain au Parc des Princes face au Real Madrid. On se souvient que lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, la Seleção avait vécu un cauchemar, blessé en quart. Neymar avait dû quitter l'équipe nationale, on s'en souvient, balayé 7 buts à 1 face à l'Allemagne en demi-finale.
Dopage, la Russie annonce la fin de sa suspension par le CIO.
Le président du comité olympique russe, Alexander Zourkov, a annoncé ce mercredi que la suspension suite à des scandales de dopage avait été levée par le comité international olympique. Si le CIO confirmait cette annonce russe, ce serait une grosse surprise, car 2 athlètes russes engagés lors des JO 2018 ont été contrôlés positifs en Corée du Sud, le curleur Alexander Kruchenitsky et la bobeuse Nadezhda Sergeeva.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
La star de Cleveland, LeBron James, se marque encore un peu plus l'histoire de ce sport. Hier, en inscrivant 31 points lors du match face à Brooklyn, remporté par les Cavaliers 129 à 123, LeBron James est devenu le joueur le plus âgé à terminer un mois avec une moyenne de triple-double. Mais c'est la première fois en 15 ans de carrière que le joueur parvient à réaliser une telle moyenne de triple-double en l'espace d'un mois. On va donner les autres résultats. Denver battu par les Clippers de Los Angeles 120 à 122. Miami qui s'impose sur le fil face à Philadelphie 102 à 101. Portland domine Sacramento 116 à 99. Et puis Milwaukee qui bat Washington 104 à 107. Enfin Charlotte qui domine Chicago 118 à 103.
Merci beaucoup Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le gouvernement burkinabé a entamé un dialogue social pour baisser la masse salariale dans la fonction publique. Le Premier ministre Paul Kaba Tieba a réuni les syndicats, patronats, les partenaires techniques et financiers, le représentant du Haut Conseil pour le dialogue social et les autorités religieuses. Une conférence générale est prévue avant la fin du mois de mars pour statuer sur les différentes propositions. Eric Manirakiza a joint à Atlanta, aux États-Unis, l'un des acteurs de la société civile burkinabé, Ismaël Diallo.
Il faudrait d'abord saluer les efforts faits par tout le gouvernement au Burkina depuis l'indépendance d'avoir pu assurer les fins de mois des fonctionnaires. Il faudrait également saluer le fait que le gouvernement veuille avoir l'avis de toutes les strates de la société pour parvenir à des décisions consensuelles. Ceci dit, pour jeter un pavé dans la mare, si le gouvernement en vient à cet exercice, c'est parce que depuis 2 ans, il n'a pas réussi à provoquer la rupture de ce que nous avons vécu pendant 28 ans. Les syndicats burkinabés sont les plus francophones parce qu'ils vont en grève avant de discuter, apparemment. Et peut-être que chemin faisant, ils ont oublié les intérêts moraux pour mettre en avant les intérêts matériels.
Pour vous, c'est une équation à plusieurs inconnus.
C'est une équation à plusieurs inconnus et je doute que cette grande messe aboutisse à quelque chose. Je pense que le gouvernement peine à avoir un langage de vérité totalement franc et transparent avec tous les acteurs de la société. Les travailleurs du public sont combien comparés à toutes les femmes et les hommes du Burkina qui sont actifs, surtout dans l'informel.
Mais comment peut-on réduire un salaire qui est déjà devenu un acquis ?
Cela peut se faire en temps de crise et s'il y a une compréhension de tout le monde que c'est une nécessité absolue. Et si ceci se fait de bout en bout pour tout le monde, mais pas pour une partie. Seulement, il faut dire que notre fonction publique est très désaxée. Il y a des corps qui ont des avantages exorbitants, pendant que d'autres peinent. Combien gagne l'infirmière et la matrone? Combien gagne l'instituteur? Combien gagne le policier, le gendarme, comparé à ceux qui sont dans les bureaux, même s'ils sont aux finances et qui contribuent à mener de l'argent? En réalité, il y a beaucoup d'autres endroits où on peut faire des économies avant d'en venir à réduire les salaires. Là aussi, également, le gouvernement ne fait pas assez pour récupérer de l'argent qui traîne ici et là et pour réduire certains abus.
Il y a eu des augmentations cas par cas. Est-ce facile de les remettre en cause aujourd'hui?
Ce n'est pas facile, mais si le gouvernement a le couteau à la gorge, que doit-il faire? Que peut-il faire? C'était une erreur, justement, d'avoir satisfait des revendications au cas par cas. C'est un puzzle. Et quand on touche à un point, on déplace un autre. Il faut faire attention à tout le tableau et non pas agir au cas par cas.
Ismaël Diallo, l'un des acteurs de la société civile burkinabé.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Mali, le processus de cantonnement, de désarmement et d'intégration était au centre d'un atelier à l'endroit des chefs de base des différents mouvements armés. L'objectif est de préparer un éventuel enregistrement des combattants. Reportage à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
La Commission nationale de mobilisation, désarmement et réinsertion poursuit ses activités à Tombouctou avec, ce matin, un atelier sur les documents registres pour l'enregistrement des combattants. L'atelier est placé sous la présidence du gouverneur de région en présence du président de la Commission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion, Zahabi Ould Sidi Ahmed, accompagné d'une forte délégation. Le chef de bureau de DDR de Tombouctou nous explique le contexte. Firoun Meiger.
Elle rentre dans le cadre d'une mission que la Commission nationale DDR a organisée du 11 au 15 dans la région de Tombouctou, où en concertation avec les différentes bases, la question de l'élaboration des listes s'était posée, les difficultés qui l'entravent et en même temps les souhaits et les possibilités de pouvoir actualiser ces listes.
Après cette étape de formation, les chefs de base procéderont au recensement des combattants. Nom, prénom, situation familiale, numéro d'armes tenues par le combattant, le site de son choix pour le cantonnement. Ce qui reste à savoir, est-ce que toutes les parties sont décidées à aller à ce cantonnement? Almou Ag Mohamed, porte-parole SEMA.
Du côté de la SEMA, tout est fin prêt pour aller à toute la mise en œuvre de l'accord. Nous, au niveau de la SEMA, on ne parle pas d'une mise en œuvre sélective de l'accord. On parle d'une mise en œuvre globale de l'accord. Vous savez que dans cet accord, il y a des dispositions politiques institutionnelles, il y a des dispositions relatives à la défense et à la sécurité, des dispositions relatives au développement économique, social et culturel et les dispositions relatives à l'humanitaire. Donc, au niveau de la SEMA, nous sommes prêts à aller à une mise en œuvre globale, efficiente et diligente de l'accord sur tous ces points, y compris le plan de défense et sécurité dans lequel est inscrit ce programme national d'aide.
La plateforme, depuis sa création, est un allié du gouvernement malien. Ghana Ould Mohamed, plateforme.
La plateforme est présente sur tous les terrains, partout, et surtout quand il s'agit de la paix, quand il s'agit de la stabilisation et quand il s'agit de la cohésion sociale, la plateforme est toujours prête pour vraiment jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de l'accord de paix.
Depuis la signature de l'accord d'Alger, sa mise en œuvre incombe aux trois parties. Malgré les efforts de part et d'autre, des difficultés ont émaillé tout le processus. Colonel-major Baba Ahmed, Commission nationale DDR.
Il y a des difficultés à chaque fois. Il y a un des partis qui se retire, il y a un des partis qui boycotte, il y a des, c'est ça, les difficultés. Sinon, le gouvernement, depuis le début, nous, on était prêts. On a ouvert les bureaux dans toutes les régions. Les chefs de bureau sont désignés. On est prêts pour recevoir ces combattants et appliquer ce qui est dans l'accord d'Alger.
Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, le conflit en Casamance demeure l'un des événements les plus douloureux de son histoire contemporaine. Vieille de plus de 35 ans, cette lutte armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance pour l'indépendance a fait plusieurs centaines de victimes. Et malgré un processus de paix instable, la région sud espère retrouver une paix durable. C'est Dina Abagué, envoyée spéciale à Ziguinchor.
Après les indépendances, la Casamance demeure dans une relative précarité économique et les populations se sentent marginalisées par rapport aux autres régions du Sénégal. Au début des années 80, le Casasport, club fagnon de la région sud, est lourdement sanctionné par la Fédération de football suite à des incidents lors d'une finale de Coupe nationale. Ensuite, un élève est tué par les forces de l'ordre lors d'une grève à Ziguinchor, ce qui déclenche de graves émeutes dans le sud du Sénégal. Ces événements seront instrumentalisés, comme l'affirme Noa Cissé, historien et figure emblématique en Casamance.
Pendant 3 jours ici, le pouvoir était pratiquement dans la rue, ce qui va alimenter un peu les foyers, ce qui va alimenter les regroupements pour monter véritablement les gens contre un ordre qu'on n'aime pas, contre une forme de gestion qu'on récuse et conduire à la fameuse marche du 26 décembre 1982. Ils sont allés à la gouvernance, bien entendu, et là-bas, ils ont voulu descendre le drapeau vert, jaune, rouge, frappé de l'étoile, et mettre en lieu et place le drapeau blanc. Et depuis lors, bien entendu, on est plongé dans ce qu'il est convenu d'appeler le conflit de Casamance.
Cette marche, réprimée dans le sang, conduit les indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance à prendre les armes et à rejoindre le maquis. Depuis lors, la Casamance est plongée dans une violente crise qui aura fait des centaines de victimes. Aujourd'hui, l'espoir d'une paix durable est réel grâce au changement de position de certains leaders de la rébellion, comme l'indique Ibrahima Gassama, journaliste basé en Casamance.
Pour la première fois depuis le déclenchement du conflit, on a vu quelqu'un comme Salif Sadio, jugé comme étant le plus radical des chefs de guerre, qui a accepté de ranger les armes et d'aller discuter avec l'État. Les autres également étaient dans la même dynamique. Maintenant, il y a eu un problème d'approche parce que certains se sont sentis exclus, n'est-ce pas, de ce processus, et on travaille, les acteurs travaillent aujourd'hui à les ramener dans cette dynamique et permettre aux choses d'être homogènes et d'aller à la table des négociations.
Dans le passé, des efforts de paix similaires sont restés vains malgré plusieurs périodes d'accalmie. Le journaliste Ibrahima Gassama estime que certains manquements dans le processus de paix sont imputables à l'État.
Il n'y a jamais eu de véritable continuité de l'État pour surveiller les accords de paix qui étaient signés et qui étaient souvent remis en cause. Parce que l'État, c'est une continuité, mais ce dossier lié à la gestion du processus de résolution de la crise casamançaise ou en Casamance n'a jamais fait de passation entre les présidents qui se sont succédés à la tête du pays. Parce que chaque président est venu en faisant table rase des acquis de l'autre. Sinon, s'il y avait cette continuité de l'État, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait noté des avancées énormes.
Après une accalmie d'environ 5 ans, les armes résonnent de nouveau en Casamance. Le processus de paix, qui est en bonne voie, n'est cependant pas remis en cause. Les acteurs estimant que les récents événements ne sauraient arrêter plusieurs années d'efforts pour la pacification de la Casamance. À Ziguinchor, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le lac Tchad qui lie le Sahel et l'Afrique centrale. Une conférence internationale se tient cette semaine à Abuja pour sauver cette région dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Le lac Tchad est-il en danger de disparition? Où en est-on avec le méga projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui touche la région? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h.
Au Niger, des femmes résolvent à leur manière le problème de la famine. Certaines d'entre elles se lancent dans l'agriculture et encouragent d'autres à le faire. Iliyasu Kassimou a suivi des fermières. Voici son reportage dit par John Lyndon.
Le jour se lève. Aïchatou Salifou est en route vers la ferme. À 120 km de route de Niamey se trouve sa ferme d'environ 243 hectares. Elle est située à Tamou, dans l'état de Saï. Aïchatou a commencé l'agriculture commerciale après la mort de son père. Elle est peut-être la seule à en faire son métier, considérant que les femmes instruites au Niger ne s'impliquent pas dans ce domaine.
J'aime l'agriculture et travailler avec les femmes du village est pour moi une bénédiction. C'est pourquoi je m'y suis engagée.
Environ 5000 personnes, dont 1000 femmes, profitent de la ferme d'Aïchatou, appelée Aïe Noma, ce qui signifie « cultivons ».
Pendant la saison des pluies, nous plantons du blé, des haricots, des noix et beaucoup plus.
Nous utilisons aussi des graines et des plantes dans des terres irriguées. Nous plantons de la laitue, du concombre et d'autres légumes.
Après la récolte, ils n'ont pas besoin d'aller au marché pour vendre leurs produits.
Après la récolte, ils ont des acheteurs déjà prêts. Pas besoin d'aller vendre au marché à bas prix. Nous les aidons à acheter à de meilleurs prix.
Vu les avantages tirés de cette ferme, les femmes ont lancé cet appel.
Notre problème, c'est l'eau. Nous n'en avons pas assez. Nous n'avons pas assez de pompes. Beaucoup de personnes veulent travailler, mais ne s'engagent pas, faute d'équipement.
Aïchatou Salifou s'adresse ainsi aux femmes qui travaillent avec elle.
Quand j'ai commencé, les gens disaient, c'est une profession masculine. Il n'y a aucune profession réservée aux hommes. Vous avez besoin de détermination et d'être à fond dans ce que vous faites.
À cause de son rôle dans la suppression de la faim au Niger, Aïchatou a été contactée par quelques experts agricoles indiens en vue d'un partenariat. Aïcha a aussi fait part de son projet d'ouvrir une école de formation agricole au Niger.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïmard à la mise en onde, Dan Crafton à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.